On va continuer aujourd'hui le dernier volet de la mini-série que j'avais à cœur de partager en ce début d'année sur les résolutions, sur trois résolutions, sur trois axes pour nous. Et j'aimerais d'emblée lire le texte que je vous propose de regarder ensemble. C'est dans l'Épître d'Hébreux, aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 39. Pour ceux qui ont ces bibles à l'arrière, c'est la page 793. Et j'invite peut-être Michela à nous lire le texte. Et voilà, je vous invite à le suivre dans vos bibles ou à l'écouter pour nous laisser aussi imprégner par cette parole de Dieu.
Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera l'habitée, lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approché du Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous ne détournons de celui qui parle du haut du ciel ? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui, appartenant au monde créé, peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant.
Merci beaucoup, Michela. Alors, comme je l'ai évoqué ce matin, on termine cette série de résolutions. Et c'est des éléments que j'aimerais qu'on garde à cœur pour les prochaines semaines, les prochains mois, même pour les prochaines années. J'ai d'ailleurs réalisé, dans les échanges que j'ai pu avoir avec l'un ou l'autre frère cette semaine, que ces trois axes font partie de la mission d'une église locale. Et ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur une partie qui, il me semble, est parfois bien malheureusement sous-estimée dans nos églises, dans notre église bien évidemment aussi. Et vous savez que peut-être vous le savez, vous le savez pas, vous le réalisez, que dans les dernières années, il y a eu une belle correction de la trajectoire dans l'Église, de façon générale. Pendant de longues années, il y avait un espèce de légalisme installé dans l'Église par laquelle on communiquait ou on croyait que pour être un chrétien égal, il faut aller à l'Église. On associait souvent ces choses-là. Ou être présent au maximum de rencontres, de réunions de prière, aux soirées, aux études bibliques, aux actions d'évangélisation, aux porte-à-porte. Et en échangeant parfois avec nos aînés, on n'a pas toujours bien vécu ces périodes-là. Enfin, on ne sait pas trop. On est à la fois un peu critique et à la fois, face à ce qu'on constate, on ne sait pas trop quoi en penser. Parce qu'on se dit, aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas non plus tout à fait bien. Et c'est vrai, il y a une belle correction. L'adoration, l'attachement à Dieu, c'est quelque chose qui se vit, se réalise au quotidien. Pas juste uniquement le dimanche, mais au quotidien, toute la semaine. Il y a cette nouvelle liberté que nous avons en Christ. Et donc, si on manque un dimanche à la rencontre d'église, c'est pas comme si on perdait notre salut ou on perdait une bénédiction. Ça, c'est la belle redécouverte, ces dizaines dernières années de la grâce, du bienfait. Mais comme toujours, On est dans un sens, on va toujours dans l'autre sens. Et la situation assez contemporaine qu'on partage entre plusieurs responsables souvent, en fait, c'est que maintenant, on est arrivé à en négliger nos rencontres fraternelles. Où on en voit beaucoup moins l'importance de nos rencontres communautaires. On voit moins l'importance de notre rencontre le dimanche. Ou d'une réunion prière communautaire qui rassemble toutes les générations. Et vous retrouverez dans, il y a quantité de livres, quantité d'articles sur les sites chrétiens qui rappellent cette nécessité de se rassembler, d'adorer ensemble, de louer ensemble, de prier ensemble, de la dimension d'être membre, la dimension de s'engager les uns envers les autres, de prendre soin, la communion fraternelle, etc., etc. Donc la question, est-ce qu'il faut aller à l'église? Est-ce qu'il faut se rendre le dimanche matin à un culte pour être un chrétien? Vous l'avez compris, bien évidemment. Que non, mais est-ce qu'il faut aller à l'église, se rassembler pour être un chrétien en bonne santé? Et là, la Bible dirait oui. La Bible dirait oui. La nécessité de se rassembler. Et si tu parcours la Bible, tu vas trouver ce principe qui est assez important. C'est l'idée que on devient ce qu'on adore en tant qu'humain. Si on adore le monde, si la place du monde est importante, on va se conformer au monde. Mais si on adore Christ, on va ressembler à Christ. Et je vous dis rien de nouveau, hein, ici à l'église de Wittenheim, on a le désir de vivre ici-bas comme Christ nous le demande, d'être des disciples de Jésus-Christ. Alors il y a plusieurs endroits qui parlent de cela, de cette idée d'être à l'image de Christ. Peut-être vous le connaissez ce verset de 2 Corinthiens de l'apôtre Paul qui dit « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Vous voyez le principe ? On adore Jésus, on contemple Jésus et on est transformé par son image progressivement. On devient ce qu'on adore. Alors les dernières semaines, je vous ai partagé plusieurs axes. Voilà, premier axe, hein, c'était, on a ce rêve d'être, enfin en tout cas j'ai le rêve pour nous d'être une église avec une foi publique, c'est-à-dire une foi intentionnelle, une foi visible, une foi qui va vers les gens, de toute simplicité. Rappelez-moi, le deuxième axe, c'était quoi, la semaine dernière ? Allez, je vais vous aider. C'est être rempli de disciples qui est investi dans la vie des autres, dans la vie de leurs prochains, de disciples multiplicateurs, des gens qui se voient comme des prêtres et des prêtresses et qui encouragent les autres dans leur foi, qui accompagnent d'autres dans la foi, qui les encouragent, qui les exhortent. Et mes amis, c'est évident que ces deux choses-là sont impossibles si nous ne sommes pas en bonne santé spirituellement. Si on est dans nos baskets, si on n'est pas bien dans nos baskets, si on n'a pas une vitalité spirituelle, une fraîcheur, on peut oublier ces principes d'avoir une foi qui soit publique et de vouloir prendre soin de son prochain. Alors si en tant qu'église, notre foi publique, notre soin des autres n'est pas terrible, c'est probablement peut-être parce que notre foi n'est pas en si bonne santé. Et une des plus grandes façons que l'Écriture nous présente, c'est pas la seule, qui donne une vitalité à notre vie spirituelle, c'est en adorant Dieu ensemble. Et c'est un peu le principe que j'aimerais, où on devient ce qu'on adore. Et le troisième élément que j'aimerais vraiment nous encourager pour les semaines, les mois, les années à venir, c'est qu'on soit une église transformée par la beauté de Jésus chaque dimanche, à chaque rencontre, transformée par notre adoration. Je l'ai déjà dit, hein, il me semble que j'ai eu un message il n'y a pas si longtemps sur cette importance de nous retrouver. Et c'est vrai que la parole de Dieu met l'accent sur ce privilège de pouvoir adorer Dieu ensemble, parce qu'il y a des choses qui se passent. C'est un endroit où il veut favoriser notre croissance spirituelle, cette vitalité spirituelle. Il veut que nous devenions ensemble, que nous adorions ensemble. Et c'est une transformation qui est importante. Alors bien sûr, il y a l'adoration ensemble, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'adoration personnelle, notre temps personnel avec Dieu dans la semaine, bien évidemment. Mais le texte qu'on a lu, et si je reviens à Hébreux 12, célèbrent la beauté et la puissance d'être des adorateurs dans l'Église, ensemble. Et on va le repasser ensemble et j'aimerais voir trois choses qui se passent quand on se retrouve ensemble, lorsqu'on adore collectivement, et des choses qui vont nous transformer à l'image de Christ. Premièrement, nous allons voir que on rencontre un Dieu qui est dangereusement glorieux. Deuxièmement, on rentre dans notre adoration au ciel lui-même. Et dernière chose, on entend le meilleur des messages. Je voudrais prier. Seigneur, merci pour ce privilège, et plusieurs l'ont déjà exprimé, d'être ici ce matin. Et c'est vrai, c'est une occasion où tu veux nous voir, nous encourager, nous exhorter. Ça fait du bien d'entendre la prière d'un autre. Ça fait du bien d'entendre le partage, le témoignage d'un autre. Ça fait du bien d'échanger à l'issue de ce temps. Cela fait du bien de regarder ensemble ta parole et de chanter ensemble qui tu es et ce que tu es pour nous. Alors je prie que tu ouvres nos cœurs, que tu donnes nos cœurs qui soient disposés à t'entendre, pour mieux t'adorer ensemble. Amen. Alors premièrement, nous rencontrons ensemble un Dieu qui est dangereusement glorieux. Alors ce texte-là d'Hébreux 12 fonctionne sur ce principe, on devient ce qu'on adore. Alors si on regarde, on a lu à partir du verset 18, mais si vous prenez un peu la section qui précède, verset 12 à 17, on va pas le lire, mais l'auteur nous encourage, nous exhorte à être des personnes à marcher en paix, les uns avec les autres, et à marcher de progrès, en sainteté. Et comment on fait pour marcher dans l'amour les uns avec les autres? Comment on s'encourage les uns avec les autres à être saints? Mais c'est en fixant nos regards sur celui qui est saint. Comment on fait pour aimer? Mais c'est en regardant à celui qui nous aime parfaitement. Et c'est pour cela qu'au verset 18, l'auteur nous amène à cette question d'adoration. Alors peut-être dans certaines traductions de vos Bibles, le verset 18 commence par « car » ou « en effet ». Parce que. Et là, on se trouve, et vous l'avez entendu tout à l'heure, l'auteur va nous présenter, il y a deux événements, il y a deux sections, il y a deux montagnes, on pourra dire, on a les versets 18 à 21 et les versets 22 à 24, deux portions de texte qui sont introduits par la même chose, enfin pour le même type. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, donc verset 18, en contraste, au verset 22, au contraire, vous êtes approché d'une autre montagne. Vous voyez les deux parties? Et l'auteur va contraster deux montagnes, le mont Sinaï et le mont Sion. Deux montagnes qui ont deux manières de représenter, de comment adorer Dieu ensemble. Alors la première montagne décrit la manière de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, avant la venue de Jésus-Christ. Et la deuxième appartient à celle qui a été inauguré en Jésus-Christ. Mais regardons ensemble, parce que l'auteur, il nous met comment on adorait, enfin, comment on se présentait devant Dieu sous l'Ancienne Alliance. Et c'est, pour moi, je trouve, c'est extraordinaire. On a une image qui est d'une intensité. On a quoi? On a une montagne embrasée. On a la tempête. On a l'obscurité. On a le danger de la mort. On a le retentissement de la trompette. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené, alors moi ça m'est arrivé une ou deux fois, de me promener en montagne, dans une forêt, et il y a un orage, il y a le tonnerre et tout ça. C'est assez, tout d'un coup, tout s'assombrit. C'est assez impressionnant. Mais c'est ça cette image. Et cette image-là que Hébreux nous laisse, c'est celle d'Exode 19. C'est l'endroit où, dans l'histoire de la rédemption, où Dieu rencontre son peuple pour une des premières fois où Dieu va descendre. Dans cet endroit précis du mont Sinaï. Dieu devait descendre du ciel pour avoir une communion, pour avoir une relation avec son peuple sur cette montagne. Mais comme on le voit ici, et si vous prenez le texte d'Exode, et on va pas le prendre, mais Dieu ne rencontre pas tout le peuple. Il rencontre pas le peuple en même temps, mais il va rencontrer juste le médiateur Moïse. Et le peuple restait en bas de la montagne. Moïse seul montait. Mais on le voit aussi dans ce texte et dans Exode aussi, le peuple ne pouvait pas s'approcher n'importe comment de cette montagne. Il devait suivre certaines règles. Il y avait toute une procédure de purification que Moïse avait encouragée. Et même là, même purifié, même s'il leur avait demandé de laver leurs vêtements, ils avaient érigé, le texte nous dit dans Exode, une barrière physique pour empêcher de s'approcher trop près de la montagne. pour éviter que quelqu'un d'impur fasse éclater la colère de Dieu. La sainteté de Dieu était telle que la colère de Dieu pouvait détruire le camp à cause de la sainteté de Dieu. Et ici, on a une image, et c'est vrai, y compris dans Exode, du Dieu de la Bible qui est d'une perfection tellement parfaite, brillante, sainteté éclatante. On a chanté des mots un peu comme ça aussi tout à l'heure. Que tout ce qui est impur ne peut s'approcher de Dieu et où est anéanti. Alors le peuple devait suivre tout un tas de consignes. Voilà comment le peuple voyait Dieu. On le sait, c'est un privilège. On est dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, que maintenant il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de danger pour le chrétien de nous approcher de Dieu. Mais je crois que parfois on va trop vite. Parce que regardez le verset 29 de notre section. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Un feu dévorant. Le texte ne dit pas « Dieu était un feu dévorant ». Dieu est un feu dévorant. Encore aujourd'hui, notre Dieu est saint. On le chante parfois dans les chants. Notre Dieu est un Dieu tout puissant, où il n'y a rien d'impur. Encore aujourd'hui, un Dieu qui est intransigeant face au péché, face à ce qui est impur. Même aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance. Oui, beaucoup de choses ont changé depuis ce mont Sinaï, mais Dieu reste un Dieu tellement saint, tellement pur. Même Moïse disait qu'il en était épouvanté. C'est le verset 21. Le spectacle était si terrifiant de cette descente de Dieu sur cette montagne que Moïse, je suis épouvanté et tremblant de peur. Cette image donne une gravité, une profondeur quelque part à notre adoration. Donc c'est pour ça que j'ai donné comme titre, on s'approche, mes amis, le dimanche, quand on est ensemble rassemblés d'un Dieu qui est dangereusement glorieux. Oui, le danger est enlevé pour le chrétien, mais Dieu reste dangereux. On a tous vu, il y a eu plusieurs ouragans, plusieurs tempêtes, hein, on n'a pas été touchés. Quand on regarde des vidéos, on se dit, on voit les effets de ces ouragans, on voit que c'est terrible, que c'est puissant. Et ça nous impose une certaine crainte. On reconnaît la puissance de ce phénomène. Mais je pense que on aurait besoin aussi, nous, de nous rappeler de ce feu dévorant, de se rappeler de cette sainteté, de cette montagne qui tremble, qui fume et qui s'ébranle par la présence sainte de notre Dieu, par sa présence glorieuse. Alors je me demande si parfois on trouve notre adoration ensemble peu intéressante, routinière, peu transcendante, si on n'a pas oublié quelque part cette vérité-là, si on l'a pas un peu aseptisée, si on l'a peut-être pas un peu apprivoisée, ce Dieu, ou assujettie, mis dans une boîte. C'est vrai qu'on regarde parfois moins ces aspects qui dérangent, mais ce Dieu, la manière dont c'est présenté dans l'Ancien Testament, il est le même. Il y a la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Oui, alors on peut chanter ensemble la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et parfois, dans nos pensées, on est préoccupé par notre repas ou par la qualité de la musique qui est faite devant, par les fautes au piano. Pardon, t'en as pas fait, hein, mais voilà. Parfois, on a ces petits détails-là. On se dit, ah mince, aujourd'hui, il y a pas Léa qui chante. Aujourd'hui, il n'y a pas la trompette. Alors qu'on est en train de chanter la puissance, la gloire de Dieu. Oui, on a un Dieu majestueux qui est un feu dévorant. Et je crois que il faut regarder les deux ensemble, dans notre adoration ensemble. Le Dieu qui est dangereusement glorieux est aussi pour nous un ami fidèle et tendre, envers qui on peut s'approcher, celui qui est notre berger. Et c'est ça, le produit de notre adoration. Alors oui, si une des raisons... Si notre adoration parfois est un peu tiède, distraite, c'est qu'on a oublié cette sainteté de Dieu, que Dieu est un feu dévorant, que Dieu est dangereusement glorieux. Et on le voit dans ce texte que pour celui qui se présente devant ce Dieu, sans médiateur, c'est terrible. C'est terrible. Et heureusement, nous avons un médiateur. On l'a déjà dit tout à l'heure. Mais sans ce médiateur, ça va pas bien aller. Et je pense que dans notre culture, un peu occidentale, occidentalisée, s'il y a un point à retenir, que si on veut s'approcher de Dieu, et on peut le faire ce matin, et on peut le faire quelque part, est-ce qu'on peut le faire n'importe comment? C'est la grande question. Pas tout à fait. C'est vrai qu'on bricole un peu nos foi personnelles, un peu de ci, un peu de ça, un peu de Bible, un peu de mysticisme, quelques pratiques qu'on semble intéressantes. Mais nous savons que la Bible, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Il est trop saint pour cela. Oui, il y a la liberté de nous approcher, mais avec le moyen qu'il nous donne. Avec le moyen qu'il nous donne. Alors vous avez déjà entendu, hein, on peut venir à Dieu comme nous sommes. Et c'est vrai. Et j'espère que c'est vrai à 100%. Dieu nous accueille à 100%. Mais pas dans l'idée d'avoir un certain degré de performance morale ou spirituelle. Voilà, on peut s'approcher quand on a vécu tout ça, 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 ça. Alors là, on peut s'approcher. Non. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut, en fait. On peut s'approcher, oui, mais pas comme on veut. Et pour cela, il y a un médiateur. Un médiateur qui vient détourner le danger qui est là et qui prend le danger sur lui-même par le moyen du sacrifice. Voilà comment ça se passait sous l'ancienne alliance. Nous rencontrons, et c'est ce qui nous arrive aussi, nous rencontrons un Dieu qui est dangereusement glorieux, qui est de façon magnifique, glorieuse. Enfin, il y a tous les adjectifs qu'on pourrait ajouter. Et le deuxième point, nous entrons ensemble dans le ciel lui-même, joyeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on se réunit ensemble. Et malheureusement, on le réalise pas non plus, pas toujours. Parce qu'il y a ce contraste verset 22, au contraire, vous êtes approché du mont Sion. Il y a une autre montagne. On passe de la montagne du désert, où il y avait ce feu, à la montagne qui est habitée, la cité du Dieu vivant, là où il y a de la vie. Et ce que nous décrit là l'auteur à partir du verset 22 est simplement magnifique. On nous emmène en quelque sorte au ciel. Je vais relire les versets 22-23. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en fête de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, etc. Vous voyez ce contraste? On est dans la cité, et je cite, hein, du Dieu vivant. On dit souvent que l'histoire biblique commence à un jardin, hein, la Genèse, et dans l'Apocalypse, dans une cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. Et ici, on a un petit aperçu de cette ville. Ça a l'air de grouiller de monde. Alors c'est vrai, on ne le voit pas ce matin spirituellement. Mais l'écrivain nous dit que dans cette ville, il y a des dizaines de milliers d'anges et des dizaines de milliers d'anges qui sont accompagnés de tous les justes, ça veut dire tous les croyants décédés qui nous ont précédés. Et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Le texte nous dit qu'ils sont en train de fêter. Ils font la fête. Ils sont en train d'adorer Jésus, de le célébrer. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein. Mais ça sent l'adoration joyeuse, l'allégresse céleste. La montagne où on est accueilli, où il y a de la joie, où il y a de la bénédiction, la ville où demeure le Dieu vivant. Là, c'est un rassemblement du dimanche qu'on n'a jamais vu, hein. Mais regardez ce qui est le plus surprenant, c'est regarder le temps du verbe qui est utilisé. Au verset 22, vous vous êtes approchés de la cité. C'est pas vous vous approcherez, dans le sens que c'est ce qui nous attend. C'est l'adoration ultime qui nous attend. Non, mais vous vous êtes approchés. Et même d'ailleurs, vous vous joindrez aussi à cette adoration. Vous vous êtes approchés. En fait, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Et c'est même quelque chose qui a lieu chaque fois que l'on s'approche de Dieu ensemble. Ce texte nous dit quelque part que chaque dimanche, dans notre adoration collective, on se joint à la fête qu'il y a autour de notre Dieu, à la célébration légendaire de ce qui se fait au ciel. Moi, je trouve que c'est incroyable. tellement incroyable qu'on doit relire et relire et méditer sur ça, ce que ça veut dire. Le texte ne nous dit pas que notre adoration nous donne un petit aperçu. Le texte nous dit qu'on se joint à cette adoration céleste. C'est incroyable. Donc, quand je dis qu'il y a un bienfait particulier à être ensemble, rassemblé, je crois qu'on a besoin de voir cela. C'est comme si on était transporté au ciel et qu'on se joignait à la multitude d'enfants de Dieu qui honoraient notre Seigneur. On rentre au ciel lui-même. Et quand on vient le dimanche, c'est vrai, ce texte nous dit que Jésus est présent d'une façon unique. Alors c'est difficile à comprendre, mais cela devrait nourrir quelque part notre désir de chanter ensemble, notre désir d'écouter Dieu ensemble, notre désir de prier ensemble, parce qu'on se joint à la multitude, alors à la fois ceux qui sont célestes, mais alors la multitude d'autres chrétiens de par le monde qui honorent le Seigneur. Il y a cette exhortation à ne pas manquer cette occasion-là. Et c'est l'exhortation que j'aimerais nous laisser, à ne pas nous priver de venir goûter à vivre ces moments d'adoration. Vous savez, j'ai entendu il n'y a pas longtemps le fondateur d'Amazon, il a fêté ses 60 ans, il a fait une grande fête, et c'était vraiment le rendez-vous que toutes les personnes dignes de ce nom importantes ne devaient en aucun cas manquer, cet anniversaire, cette soirée qu'il faisait. On devait faire acte de présence. Et quelque part, la Bible nous encourage aussi à faire acte de présence, à adorer Dieu qui est bien plus grand que n'importe quel des hommes ici-bas. Parce que quand l'Église est rassemblée, on rentre en compagnie des anges, en compagnie des saints de toutes les époques pour louer Christ. Alors c'est probable qu'on ressent pas tout cela, hein, on ressent pas ça quand on se retrouve ici à Wittenheim. Hein. C'est pas avec ça qu'on vient en tête le dimanche matin. Alors c'est toujours le dimanche où les enfants se décident à ne pas nous écouter. Il y a toujours un peu de tension avec notre épouse. Il y a toujours un truc qui nous fait penser au travail et qu'on a oublié de terminer. C'est toujours le dimanche qu'on se sent lessivé, qu'on n'a pas envie de se lever, qu'on n'a pas envie de sortir du lit. C'est toujours le dimanche qui succède à un repas de famille la veille, où il y en a un autre qui est devant nous. Et cela nous demande un effort de se rassembler. On n'a peut-être pas eu le temps de manger. On est peut-être lassé des prédications, des prédicateurs. On est lassé de nos chants qu'on chante, peut-être de façon habituelle. On n'a peut-être pas envie de chanter. Peut-être ça demande juste un effort de venir. Et alors oui, on n'a pas l'impression franchement de rentrer au ciel. Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être plutôt l'inverse. Vous savez, quand on est devant là, on voit beaucoup de choses. On voit les yeux qui tombent. On voit ceux qui lèvent les yeux parce que ça leur plaît pas. On regarde ceux qui regardent leur montre parce que le prédicateur est trop long. Il y en a qui tirent leur tronc. Il y en a qui ont pas le sourire et qui sont abattus, qui sont accablés. On voit les enfants qui chantent à fond. On voit les enfants qui chantent pas, qui font autre chose. Il y en a ceux. On voit aussi ceux qui ne perdent aucune goutte de ce qui est dit, de ce qui est chanté. On le voit ceux qui. C'est vrai, chaque dimanche, notre adoration, elle est imparfaite, mes amis. Elle est imparfaite. Elle peut être aussi distraite que cela. Mais je me suis dit en préparant cela, c'est important de me rappeler en fait que Dieu a voulu qu'on se rassemble pour qu'on voit qu'on s'approche d'un Dieu qui est glorieux et qu'en fait on n'aurait même pas le plaisir de s'approcher. Et qu'en même temps, le fait de se retrouver, on adore ce qui se passe. Là-haut, je crois que si on venait avec ces deux petites pensées, c'est un peu ce que les réflexions qu'a partagé Hubert avec ses enfants, si on imaginait la terre et le ciel s'unissent avec le peuple de Dieu dans l'adoration, c'est quelque chose de précieux. C'est vrai, l'Église n'est pas le seul endroit où on voit la gloire de Dieu. On peut monter sur le Markstein, au Ballon d'Alsace ou dans les Alpes pour contempler la création et voir la gloire de Dieu. Mais je crois qu'aussi, et je veux l'affirmer, c'est la Bible qui le dit, on le voit aussi, la gloire de Dieu, lorsqu'on est rassemblé de toute génération. Lorsqu'on est entouré de bras cassés, de jeunes et de moins jeunes, qui n'ont peut-être plus toute l'énergie. Mais c'est cela que le texte veut nous encourager. Vous voulez vous aider à vous aimer ensemble, à être saint, à être transformé à l'image de Christ, mais venez adorer ce Dieu glorieux ensemble. Alors c'est vrai, lorsqu'on s'approche de Dieu, il y a de la joie. Dizaines de milliers d'anges en fête. Moi, j'aime cette église lorsqu'on se rassemble. Il y a des chants, il y a des prières, il y a des partages. Et c'est vrai, il y a la place dans ces moments-là de toute la gamme de nos émotions, un peu comme les psaumes. C'est vrai, on peut être triste, on peut être accablé par les soucis des uns et des autres. On peut être touché par l'épreuve des uns et des autres, la difficulté. On est touché, moi je suis trop souvent accablé par ces personnes qui s'éloignent, par ces personnes qui sont pas présentes parmi nous, qui se privent de cette occasion d'être encouragées par Dieu. Mais la note qui devrait être dominante dans nos rencontres, c'est la joie d'être gracié, la joie de venir dans la présence d'un Dieu glorieux. Parce qu'au ciel, parce que c'est ça que j'aime bien cette relation-là dans ce chapitre, on est comme si on était au ciel, et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrances. On partageait tout à l'heure, Hubert, c'est ce qu'on rejoint là. Et donc c'est cela, ce matin on est rassemblés parce qu'on veut avoir notre regard fixé sur cette espérance où nos maladies vont être effacées, où nos difficultés avec nos familles seront effacées, où tout ce qui nous fait souffrir dans notre corps ne sera plus. Il y a la joie à venir. Notre regard devrait être profondément, on devrait s'encourager à fixer notre regard là-haut. C'est ce que l'on devrait faire chaque fois qu'on se retrouve. Et c'est pour cela que on adore ensemble aussi pour entendre le meilleur des messages, la grâce. Le meilleur des messages, la grâce. Je relis le verset 24, un peu avant le verset 24. Vous vous êtes approchés, donc on est toujours un peu dans cette troisième fois, hein, vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous. Là, on sent de nouveau la sainteté, la gloire de Dieu. Des esprits des justes parvenus à la perfection par Jésus ou de Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et de sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Un meilleur message. Là, on parle de Christ. On est peut-être un peu perdu là parce qu'il compare le sacrifice de Christ avec le sang d'Abel. Nous, au groupe de jeunes, ceux qui étaient les jeunes qui étaient au groupe de jeunes, ben voilà, on a vu ça, on a vu Caïn et Abel. Donc c'est, je vous situe juste, hein, on est à la sortie du jardin d'Éden. Adam et Ève ont deux enfants, Caïn et Abel. Caïn, pour une histoire de jalousie, tue son frère Abel. Et dans le texte, on nous dit que le sang d'Abel criait de la terre. Le sang criait justice, vengeance, réparation. Et ici, le prédicateur d'Hébreu veut nous faire montrer qu'il y a un contraste entre ces deux personnes qui sont mortes, entre Abel et Jésus, où le sang a été versé. Mais le message porte est un message différent. Si le sang d'Abel crie vengeance, rétribution, réparation, l'auteur nous dit ici que le sang de Jésus-Christ crie un plus beau et un plus grand message. Le sang de Christ ne crie pas la vengeance, il crie la grâce. La grâce du plus beau message. Et on l'a dit ces derniers temps, de cette bonne nouvelle, de la grâce, de l'évangile. Un message qu'on va entendre et qu'on va entendre au ciel. C'est le message de la grâce qui sera le message principal. Le cri de toute éternité, grâce infinie de notre Dieu. On a déjà tous entendu une chorale qui chante à plusieurs voix, j'imagine. Ça, des fois, ça fait la chair de poule, surtout si l'acoustique, elle est terrible. Une grâce qui ne se vit pas au début, simplement, de notre marche avec le Seigneur, mais tout au long, tout au long. Et je pense que dans l'adoration, dans nos temps ensemble, c'est cela, c'est chanter la grâce, c'est chanter la bonne nouvelle, c'est se rappeler cette bonne nouvelle tout au long. Et c'est ce qu'on fait à Wittenheim, on essaye en tout cas de le faire. C'est vrai, on le sait, on rentre dans une relation avec Dieu par grâce, mais parfois à partir de là, on pense que il faut travailler très fort pour garder cette place de gracié. On a l'impression qu'on veut l'achever avec nos efforts humains. Mais la beauté de ce message, c'est que Dieu déclare que c'est faux, que c'est la grâce, que c'est un don, ce n'est pas une opportunité. La grâce, c'est pas une opportunité, c'est pas le privilège. Bon voilà, Dieu il a couvert, maintenant on a vraiment une belle opportunité, ne la gâchez pas, hein, de vous présenter devant Dieu. Dieu il a offert le sacrifice. Non, c'est une grâce, une faveur. Je t'ai sauvé par grâce. Je t'ai sauvé par la grâce. C'est ce que Dieu nous dit. Le sang de Jésus est un sang infiniment meilleur. Le sang de Jésus nous crie que c'est pas une opportunité, mais un don. Et celui qui a placé sa foi en Jésus a son nom inscrit, et on le voit aussi dans ce texte, dans le ciel. Son nom dans le ciel. Par grâce. Si vous lisez le verset 28, c'est pourquoi, puisque nous recevons, quand on reçoit, c'est un don, nous recevons un royaume inébranlable. Notre nom inscrit dans le ciel. Comment on peut expérimenter ce message, cette grâce ? En fait, c'est en passant de ces deux montagnes différentes, du mont Sinaï, du mont Sion. Comment on passe de l'une à l'autre ? D'une montagne où on a l'impression qu'on a un dieu, c'est terrible, où on n'ose pas s'approcher, d'un dieu où voilà, c'est l'accès qui est libre, où on est en présence même de Dieu. Ça passe par une troisième montagne. C'est le mont du Calvaire, le mont où Christ a été crucifié. Et si vous rappelez l'image de ce moment-là, on l'a tous en tête, Matthieu nous en parle bien dans Matthieu 27. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus est mort, qu'est-ce qui se passe ? La terre est ébranlée. Il y a de l'obscurité, il y a des ténèbres, il y a des cris, parce que Dieu crie dans Jésus-Christ. Cette fois, il y a quelqu'un qui a touché cette montagne sainte, qui a été puni de mort. Non pas parce qu'il a été coupable, Jésus était innocent, mais parce qu'il a pris la place de celles et de ceux qui étaient coupables. Et c'est ce qu'on veut se rappeler quand on se retrouve. Parce que Jésus, en fait, il a pris sur lui la colère, il a absorbé, il a pris sur lui le danger du Dieu glorieux. Jésus se met entre Dieu et son peuple, comme médiateur, comme cette passerelle, comme cette porte ouverte. Il prend tout le danger, on pourrait dire de l'ouragan de la sainteté de Dieu. Il y a tout qui s'est déversé. Toute la colère de Dieu contre les hommes rebelles. Et une fois que Jésus a fait cela, à la croix, il ne reste plus aucune goutte d'anger. C'est vrai, on a cette de chanter Dieu puissant, Dieu glorieux. On a la liberté de s'approcher, il n'y a plus aucune goutte de danger, parce qu'il a pris ce rôle de médiateur. La justice a été accomplie. Et c'est pour cela qu'on peut chanter « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Parce que Jésus a pris sur lui. Et c'est d'où la dernière partie du passage à partir du verset 25 qui exhorte, qui avertit de ne pas refuser d'écouter, de ne pas rejeter, de ne pas se détourner de ce message. Et une église qui se détourne de ce message de la grâce et de la bonne nouvelle, qu'on est réconcilié avec Dieu par l'œuvre de Christ, les fondements sont ébranlés. C'est pour cela que quand on se retrouve, on veut rappeler la grâce. Et pourquoi on a le privilège de nous approcher ? Et ce qu'est le début ? Et le verset 28 résume un peu, et je vais le relire, un peu ce qu'on vient de dire là. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Notre Dieu est un feu dévorant. Ça résume tout. Une adoration remplie de révérence, de crainte respectueuse. On a reçu le don du royaume. On est loin d'un culte bon marché, parce que c'est la grâce qui a coûté la vie de son Fils qui nous permet de nous approcher et de nous y goûter. Et Dieu n'a pas mis de côté sa sainteté, sa puissance. Il ne tolérera jamais le péché, mais il l'a recouvert, il l'a couvert par le sang de son Fils. Alors oui, ébloui par le sang du Seigneur qui a été versé pour que cela soit rendu possible. C'est pour ça que j'aimerais vraiment nous encourager à être une église transformée par notre adoration. Parce que quand on célèbre en compagnie des uns et des autres, en compagnie des saints et des anges, quand on célèbre ce Dieu glorieux, on va être transformé. On va devenir comme celui qu'on adore. On va être capable de vivre toute cette belle vision que nous avons d'être un témoignage vivant, agréable. On veut grandir en sainteté, regardons à ce Dieu saint. On veut grandir en amour, regardons à l'amour. On veut être des hommes et des femmes remplis de grâce, méditons, chantons à la grâce. Alors prions pour que Dieu fasse cela dans nos vies. Je vous invite à du silence. Je vais prier.